Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très élaborée et il est vrai, pas très facile à suivre, comprendre, aussi je vous demanderai de réécouter à l'occasion cette étude Jésus-Christ en vous par le Saint-Esprit. Nous arrivons à l'étude numéro 3 et le thème sera du péché et de son remède. Bien sûr, il y a beaucoup d'indications bibliques. C'est nécessaire, parce que ce n'est pas une conférence personnelle avec des idées personnelles. C'est une étude élaborée et souvent élaborée dans la prière, le plus souvent, et avec beaucoup de recherche, de patience. Ça ne tombe pas automatiquement dans la bouche. Certains d'entre vous le comprennent. Comme il y a beaucoup de citations bibliques, parfois je vais répéter une phrase pour la simple raison qu'elle sera mieux réceptée, mieux reçue et comprise que quand je dois tout de même, par honnêteté, vous indiquer toutes les citations bibliques de ces recherches. Chers amis, passer du personnel à l'universel n'implique aucunement une perte d'identité, mais bien plutôt une extension de l'individualité. La personnalité, telle que l'homme l'entend, isole et appauvrit l'individu en le limitant. Si les disciples avaient pu retenir Jésus de Nazareth, ils auraient perdu le Christ de Dieu. Notez s'il vous plaît Saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 7. Jésus en était conscient. C'est pourquoi il rejette avec force la tentation que constitue pour lui la réaction de l'apôtre Pierre dans Saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Jésus savait en effet que sa personnalité historique n'était pas pour eux le bien suprême. Il dit « Je viens révéler le Père ». Notez Saint Jean chapitre 14, versets 6 à 11. Et il dit, je reviendrai afin de demeurer éternellement avec vous. Saint Jean chapitre 14, versets 6 à 11. Ces paroles étonnantes étaient riches de sens et elles prennent aujourd'hui une force toute nouvelle. Vous comprendrez sans peine que Jésus ne pouvait venir dans la toute-puissance divine pour l'humanité entière qu'à la condition de quitter corporellement ses disciples. Dans nos précédentes instructions ou études, j'ai essayé de vous démontrer que nous sommes essentiellement Esprit, der Geist. L'esprit trouve des canaux et des modes d'expression infiniment variés, mais c'est en lui, c'est-à-dire en lui seul, que se trouve la vie. Vous l'avez compris, uniquement en Jésus Christus, Jésus-Christ. L'homme a tenté de se représenter intellectuellement avec des natures infinies de Dieu, on peut dire avec la nature infinie de Dieu. L'homme a comme enfermé le très saint dans les limites de la dialectique et il a osé parler de lui, de Dieu, comme d'une personne. Et oui, l'homme, qui se connaît même pas lui-même souvent, a voulu analyser tout le contenu d'une notion comme celle de Dieu. Quand il s'agit de ces choses, il faut s'efforcer de ne vivre, de ne penser et de ne s'exprimer que par l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint sonde absolument tout. Notez 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Comme je vous l'ai dit, vous êtes parce que Dieu est. J'ajoute que ce qui est à lui, à Dieu, est maintenant aussi à vous. Notez Saint Luc, chapitre 15, verset 31. Si les humains ne réalisent pas leur destinée, c'est par manque de vitalité spirituelle. En effet, chaque être humain vit à la fois sur trois plans, formant ainsi une trinité fonctionnelle. Il est à la fois esprit, âme et corps. Or, dans la plupart des cas, le jeu normal des rapports entre ces plans est faussé. Tout devrait avoir sa source dans le plan spirituel auquel l'âme doit s'attacher pour en être sustentée, ça veut dire pour pouvoir s'en nourrir. Et c'est pendant qu'il est sur terre que l'homme doit aborder cette grande entreprise de vie sainte. Comment cela? Oui, comment? Eh bien, sachez que tout élément de vérité spirituelle que l'on traduit en acte se mue aussitôt en force créatrice et construit votre avenir à tous. Il vous appartient donc d'assurer cet avenir en vous consacrant toujours à nouveau à Dieu, corps et âme. Et cela afin que sa sainte volonté puisse agir librement, ganz frei, en vous. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Et ainsi harmoniser parfaitement votre vie toute entière. Chers amis, la parole de Dieu est vivante et efficace. Notez Hébreux, chapitre 4, verset 12. Mais elle est aussi plus douce que le miel en rayon. Notez le psaume 19, verset 11, ainsi que le psaume 119, verset 103. Je redis cette phrase sans les indications bibliques que vous possédez maintenant. La parole de Dieu est vivante et efficace, mais aussi plus douce que le miel en rayon. L'inspiration, c'est donc l'action de l'unique esprit s'exerçant par le moyen de nombreux écrits et par des méthodes variées, dans le but constant de prodiguer à l'humanité toute l'abondance des richesses et de la sagesse de Dieu. N'est-ce pas une grande et glorieuse vérité qu'il vous soit possible, pour peu que vous viviez par l'esprit, de faire usage de vos facultés ou de mots vides en eux-mêmes pour libérer la puissance spirituelle? C'est même là un des aspects du génie, car Dieu, ayant parlé le langage ordinaire que s'est donné un monde limité par les sens et par le temps, revêt un caractère d'éternité et de spiritualité. C'est ainsi que Jésus se servit du mot « pain » pour lui donner un sens spirituel et sacré, de sorte que maintenant, quand nous disons « donne-nous notre pain quotidien », nous pensons non seulement à la nourriture matérielle, mais également à celle qui véritablement assure notre vie pour toujours. Notez Saint Matthieu, chapitre 6, verset 11, et Saint Jean, chapitre 6, verset 27, j'ai dit verset 27, jusqu'au verset 63. C'est très important de vous donner la peine de lire tout ça. Donc, en toute chose et en toute circonstance, nous sommes appelés à remplacer le désordre et les ténèbres d'un monde de vanité qui est borné dans ses conceptions par la réalité et la vérité du monde véritable. Pour cela, il nous faut avant tout nous maintenir dans la lumière. Le premier acte de Dieu a été d'appeler à l'existence la lumière. Notez la Genèse, chapitre 1, verset 3. Tout ne peut pas s'exprimer uniquement par des mots, car l'Esprit Saint apporte à l'homme une illumination telle que les mots ne sauraient en rendre compte. Donc, ma prière personnelle pour vous, c'est qu'il vous soit donné d'en faire l'expérience dans toute sa plénitude. Voilà donc, mes très chers amis, la première et la plus haute expérience de la présence divine que vous puissiez faire. L'âme, disait-elle, illumine et domine toute la vie, et elle rayonne, elle est rayonnante de lumière. Elle est un peu comme l'inconsciente manifestation du divin. Elle possède une grande paix intérieure et la vraie, l'authentique connaissance des hommes et des choses. Sa lumière ne saurait être cachée. S'il vous plaît, notez Saint Matthieu, oui, je crois, chapitre 5, verset 14, jusqu'au verset 16. Car cette lumière transparaît à travers le moindre geste et la moindre parole. Voilà donc ce que est à nos yeux une âme inspirée et illuminée. De tout ce que nous venons de dire, il résulte que c'est l'écrivain sacré ou l'écrivain inspiré qui fait la valeur unique de la Sainte Bible en vous rendant accessibles les choses de Dieu. Autre considération d'une grande importance. Vous avez assigné à la Sainte Bible la première place parmi tous les livres. C'est bien. Ah, alléluia. Il en sera toujours ainsi, car des millions d'êtres humains, en lui accordant leur crédit, il y en a de moins en moins aujourd'hui, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien, ils l'ont placé la Bible, leur Bible, alléluia, au niveau qu'elle occupe, et cela conformément à une loi encore inconnue de vous, et que j'appellerai, faute d'une expression meilleure, la loi de transmutation. Voici donc de quoi il s'agit. Votre vénération éclairée transmue et purifie ce qu'elle exalte au plus haut point et qu'elle change ainsi en or, hein, in reines gold, en or pur, le métal terrestre le plus vil. Et cette transmutation des valeurs terrestres en valeurs célestes qu'opère la foi, c'est la vérité absolue. Je vous livre cette clé, den Schlüssel, afin que vous puissiez sans plus tarder faire cette expérience et tout utiliser pour vous élever jusqu'au sommet de la vie, là où tout est purifié et transmué. Cet or fin, purifié au feu divin, vous est rendu au centuple pour votre vie terrestre chargée à jamais des vertus les plus grandes. Tout cela s'applique donc à votre Sainte Bible. Vous lui avez donné cette place de choix. La récompense qui vous en revient, c'est que par l'opération de la loi dont nous venons de parler, elle vous apporte la connaissance des vérités les plus hautes. Faites donc du Saint Livre un usage assidu. Mais gardez-vous de vous en tenir uniquement à la lettre, car dans cette lecture, et par cette lecture, attachez-vous à l'esprit, comme en toute chose d'ailleurs. Notez s'il vous plaît, Saint Jean, chapitre 6, verset 63, et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5 et 6. Vous avez, chers amis, la possibilité de placer par la pensée et la prière sur ces hauteurs bénies toute personne que vous souhaitez aider. Appliquez-vous donc dans chacun de vos actes et chacune de vos paroles à honorer cette inspiration la plus haute. Vous découvrirez en vous un lieu très saint, oui, un sanctuaire de pureté et de perfection que rien ne peut profaner ni souiller, car alors vous accédez consciemment aux choses divines et vous rejoignez votre Père qui est aux cieux, gloire soit rendue à son saint nom. Efforcez-vous donc de garder aujourd'hui une vision ouverte des choses, car de plus vastes réalisations se préparent et Dieu est en train de faire des merveilles au milieu de vous. Exultez donc à la pensée de la grande révélation qui vient et que l'espérance surabonde en vous. Notez Romains, chapitre 15, verset 13. Oui, le nouveau éclairera pour vous l'ancien. Bannissez donc toutes les doutes. Avancez dans les eaux profondes de Dieu et n'ayez aucune crainte. L'éternité, c'est maintenant. Notez Saint-Luc, chapitre 5, verset 4. Chers amis, la vérité est parole d'éternité. Oui ou non? Il n'y a rien de nouveau, car la vérité n'a pas eu de commencement. Voyez-vous, je répète, il n'y a rien de nouveau, car la vérité n'a pas eu de commencement. Ce qui vous paraît nouveau, c'est ce qui entre dans le champ de votre vision au fur et à mesure de votre développement. Vous ne sauriez donc voir une vérité nouvelle au sens absolu du terme. Ça, c'est impossible. Chaque fois que vous avez à aborder les questions spirituelles, ne manquez pas de vous y préparer par la prière et par la consécration de tout votre être à Dieu. C'est votre seule protection contre les faux docteurs. Et il y en a, surtout aujourd'hui. Un cordon à triple brin ne se rompt pas facilement. C'est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Ainsi en est-il des âmes, quand trois d'entre elles réalisent l'unité parfaite, elles peuvent accomplir des grandes choses au service de Dieu et des hommes. N'oubliez jamais cela. Je vous le répète, un cordon à triple brin ne se rompt pas facilement. Ainsi en est-il des âmes, car quand trois d'entre elles, qu'entre trois personnes, réalisent l'unité parfaite, elles peuvent accomplir de grandes choses au service de Dieu et des hommes. N'oubliez jamais cela. Que l'Esprit Saint en vous soit votre seul guide. C'est uniquement dans le but de vous aider à marcher par l'Esprit Saint. Notez Romains chapitre 8, verset 5, jusqu'au verset 17. C'est là que nous venons à vous. Et cela, afin que dans sa lumière, vous vous connaissiez tel que vous êtes. Donc, nos instructions ne vous sont utiles que dans la mesure où elle vous amène à cela. Le Père et son Fils Jésus-Christ éprouvent un très grand amour pour le monde qui est le nôtre. Pourtant, ne vous appuyez sur aucune aide extérieure, si haute et si bonne soit-elle. Je ne dis pas que d'écouter à la télévision une sommité religieuse, et par pudeur je ne nommerai pas les noms et leurs qualifications que c'est défendu. Non. Mais c'est pas dit qu'ils annoncent vraiment les vérités tirées de la Sainte Bible. Voyez-vous, vous avez appris déjà que le mental de l'homme ne saurait affecter l'esprit. Il s'agit donc pour vous de quelque chose de beaucoup plus important que de vous mettre à l'école d'un maître quelconque, même s'il porte une tiare. Quand Dieu parle, il faut que l'homme fasse silence. Eh oui. Notez s'il vous plaît la Genèse chapitre 18 verset 1, chapitre 24 verset 63, le Psaume 37 verset 7, Isaïe ou Ésaïe, c'est la même chose, chapitre 41 verset 1 et Habakkuk chapitre 2 verset 20. Le Christ qui veut demeurer en vous, notez Saint Jean chapitre 15 verset 4 à 7, le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notez Hébreux chapitre 13 verset 8. Attendez donc dans le silence et le calme que le Christ vous parle et qu'il puisse faire de vous et pour les autres une lettre. Oh, c'est symbolique ce que je dis. Une lettre qui leur révèle ses pensées. Ses intentions et ses desseins peuvent être révélés pour vous. Que ce soit là, votre attitude, notez Philippiens, chapitre 2, verset 5, jusqu'à ce que le mot terrestre s'efface entièrement devant le Christ de Dieu, qui est la seule vie véritable pour vous. J'essaie de répéter cela, hein. Ces desseins, que ce soit là, notre attitude, jusqu'à ce que le moi terrestre puisse s'effacer devant le Christ de Dieu, qui lui est la seule vie véritable pour vous. Tout cela vous a été dit depuis longtemps, mais il s'agit aujourd'hui d'écouter comme à nouveau la sainte parole d'autrefois, jusqu'à ce que vous ressentiez le jaillissement de la vie dans sa fraîcheur originelle. Saint Jean chapitre 4, verset 14, et le chapitre 7, verset 38. La venue en vous de l'éternel Fils de Dieu. Je répète la phrase. Tout cela vous a été dit depuis longtemps, mais il s'agit aujourd'hui d'écouter comme à nouveau la sainte parole d'autrefois, jusqu'à ce que vous puissiez ressentir le jaillissement de la vie dans sa fraîcheur originelle, c'est-à-dire la venue en vous de l'éternel Fils de Dieu. Vous demandez le pardon de vos péchés. Évidemment, c'est le plus important. Je l'ai fait. Et j'avais tellement honte de tous mes péchés. J'étais un chrétien de nom, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est triste, vous savez, de se faire passer pour chrétien quand on ne l'est pas véritablement. Je pense que le mot n'est pas trop fort de dire que un jour, Dieu m'a fait comprendre que c'était honteux. Vous avez tout compris. Cela implique donc une purification. Ça implique le dépouillement des vieilles défroques, même si votre jean, ils l'ont montré à la télévision, sur Planète Plus, un jean qui avait plus de 25 ans s'est vendu de plus d'un million de dollars. Incroyable, mais vrai. Il y a tellement de choses bizarres. Je répète, vous demandez le pardon de vos péchés, c'est absolument important. Mais cela implique une purification. Ça implique le dépouillement des vieilles défroques. Cela, afin que la vie nouvelle et sainte du Christ en vous, encore un peu fragile, ne soit pas blessée ou étouffée par ce qui cherche à la contrarier. Il faut donc se garder de confondre le péché avec le mal en tant que souffrance, comme on le fait très souvent. Les péchés peuvent nous entraîner à nos sens qui seront livrés à eux-mêmes. Le péché brise la communion. Le péché casse la vie en fragments épars et crée ainsi la confusion. Le péché tend à nous asservir corps et âme et à nous dépouiller de notre royauté. Oh, ce que je viens de dire ne plaît pas à beaucoup d'entre vous. Je m'en excuse, mais soit que j'obéis à vous dire la vérité telle qu'elle est donnée dans le Saint-Livre, ou alors je passe par-dessus et je vous cache la moitié de toutes ces vérités pour être diplomate. Mais le Christ, il n'était pas tellement diplomate. Le Christ, dès que nous lui accordons droit de cité dans la réalité consciente de notre vie, le Christ Jésus dépasse en puissance ce que nous pouvions concevoir et finir par mettre toutes choses sous ses pieds. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25. La vie qu'il nous communique nous purifie aussitôt et nous recrée, faisant ainsi toutes choses nouvelles. On peut dire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, et ajouter Romains, chapitre 12, verset 2. Oui, Jésus pardonne en se donnant lui-même. Il se donne lui-même à nous. Par-delà, le péché aboli et rétablit ainsi l'unité de l'homme et de Dieu. Comme autrefois à Jérusalem, il chasse les voleurs et les brigands de la maison de son père par l'autorité que lui confère son droit de légitime possession. Saint Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13. Un monsieur, très bien du reste, m'a dit « Oui, mais, cher monsieur, vous êtes très, très, très âgé maintenant. Et évidemment, Vous pouvez croire tout cela mot à mot et le prendre dans votre cœur comme tel. Mais entre nous, quand vous étiez de mon âge, il avait autour de 35 ans, est-ce que vous étiez aussi strict dans tout ce que vous venez de dire comme vous l'êtes maintenant? J'ai dit, cher monsieur, j'ai honte de vous dire que j'étais probablement pire que vous. Car contrairement à vous, qui êtes tout simplement athée, moi j'étais un renégat, un soi-disant chrétien religieux, qui faisait croire qu'il était bien quand il était bien loin de tout cela. Donc, voyez-vous, mais je vous dirais tout simplement, n'attendez pas mon très grand âge, parce que ça peut louper, hein. Ah oui, surtout aujourd'hui, avec toute la circulation qu'il y a, en moto par exemple. Ah, je ne veux pas vous raconter certains témoignages authentiques qui ont fini au cimetière. Là, que vous le voulez ou pas, que vous le croyez ou pas, c'était absolument trop tard de changer d'opinion. Mais ça, vous comprenez, bien sûr, puisque la plupart d'entre vous, si ce n'est pas tous, ont fait 4 à 5 fois plus d'école que moi, qui, avec un père qui s'est marié 5 fois, que j'étais battu comme personne, maltraité, martyrisé, mal nourri, et ainsi, j'ai pu seulement faire 4 ans d'école primaire. Donc, à côté de vous, je suis un ignare. C'est ce que vous dites en français, hein. J'ai appris un petit peu votre langue. Bon. Chers amis, voyez-vous, il pardonne le Seigneur. Dieu pardonne encore aujourd'hui. Jésus pardonne en se donnant lui-même à nous. Par-delà, le péché aboli et rétablit ainsi l'unité de l'homme et de Dieu. Comme autrefois à Jérusalem, il chasse les voleurs et les brigands de la maison de son père par l'autorité que lui confère son droit de légitime possession. Notez Saint Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13. Un cri de détresse, un grand appel angoissé, monte comme une prière de nos cœurs vers le Dieu vivant. Psaume 42, verset 2. L'amour infini suffit à tout, et du cœur de cet amour descend pour nous la grande guérison du pardon. Cet amour est si puissant que tout est effacé. Notez le psaume 51 et ajoutez Colossiens, chapitre 2, verset 14. Celui qui a fait sa demeure en nous a vaincu le péché et la mort. Alléluia. Sachez donc que le péché qui est pardonné est un péché qui est totalement ôté, qui est totalement détruit, mais que ses conséquences, évidemment, peuvent parfois subsister. Et j'en sais quelque chose. Notez Galates, chapitre 6, verset 7. Le pardon vraiment reçu arrache la racine du péché Et le cours normal de la vie reprend, en sorte que ses conséquences douloureuses peuvent désormais être changées en bien. Notez Romains chapitre 8, verset 28. De ce côté-ci du voile, nous distinguons quelque chose de ce rétablissement vital. Car les voies de Dieu sont parfaites, nous est-il dit dans le psaume, psaume chapitre 18, verset 2, et ajoutez le chapitre 77, 77 donc, verset 14. Et l'âme, quand elle parvient à l'unité avec le Père, dans la conscience de la présence en elle du Christ vivant, se voit associée à l'œuvre de rédemption et contribue à élever toute la race humaine. Donc, l'amour nous enveloppe et nous presse, imprégnant l'atmosphère que tous nous respirons. Mais il réclame de notre part un état de véritable disponibilité et d'obéissance, et nous sommes invités à nous offrir sans réserve. Êtes-vous prêts, chers amis, à toute obéissance, même s'il s'agit de mourir en croix? Cette croix est le sacrifice qu'exige de vous la vie en faveur de tous les hommes. Tout homme est appelé à monter au calvaire où se consomme l'unité avec le Père. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là, car c'est l'amour du Christ. Notez Saint Jean, chapitre 15, verset 19. L'amour est le climat qui nourrit et qui fait vivre tout ce qu'il y a de plus élevé en l'homme. L'amour habite toute vie humaine, même la plus dégradée en apparence. Apprenez à aimer toujours davantage, et le Christ agira à travers vous, car il aime notre monde terrestre, et il l'aimera jusqu'à en faire le royaume de Dieu. Chers amis, le ciel n'est pas un lieu où vous puissiez arriver un jour, bien que finalement vous y serez. Et oui, il est là, le ciel, où vous êtes maintenant. C'est maintenant que vous pouvez y accéder librement. Notez Saint Luc, chapitre 17, versets 20 et 21. Il arrive que des hommes et des femmes exceptionnels fassent cette découverte. À partir de ce moment-là, tout est bien pour eux. Notez Romains, chapitre 8, verset 28, jusqu'au verset 39, s'il vous plaît. Ils ne se pressent plus, car ils sont enfin arrivés. Ils ne sont plus des pèlerins et des étrangers, mais ils sont maintenant des enfants de la maison du Père. Oui, ça change absolument tout. Notez Saint Luc, chapitre 15, verset 28, jusqu'au verset 39. La première découverte que nous faisons en nous réveillant dans l'au-delà, c'est qu'il n'y a pas eu de voyage ou ce déplacement à travers de vastes espaces. Nous sommes exactement comme nous devons être, chez nous, en un clin d'œil. Il y a des mots scientifiques pour cela, et ils essayent, par des films avec tous les gadgets qu'ils ont aujourd'hui, de vous montrer comment ils peuvent entrer dans une sorte de bulle et tout à coup être à 30 millions d'années d'ici. Enfin, chers amis, c'est en rétablissement, plutôt en rétablissant l'unité de Dieu et de l'homme dans notre et dans votre pensée que vous ouvrez devant vous la porte de la liberté. Jésus est venu pour nous ouvrir cette voie, car il est lui, le Christ incarné. Il est lui, la voie absolue. Notez Saint Jean, chapitre 15, verset 6, jusqu'au verset 12. Nourrissez-vous donc des aliments les plus nobles, c'est-à-dire la Sainte Communion, appelée aussi la Sainte Cène. Ce sont de vrais pains et du vrai sang, symboliquement. C'est-à-dire, c'est représenter le Christ par le pain et la coupe qu'on vous présente. Notez Saint Jean, chapitre 6, verset 53, jusqu'au verset 63, quand même. Il est donc Christ, par l'Esprit Saint, la puissance qui redresse et qui coordonne les données des sens, toutes les notions erronées que nous avons, et qui agit comme un principe de vie dans toutes les parties du corps. Oui, chaque cellule de votre organisme doit demeurer sous le contrôle du Christ, de peur que la main, le pied ou le cerveau ne veuillent se séparer des autres membres ou des autres organes pour vous asservir et rompre l'équilibre harmonieux de l'ensemble. Notez 1 Corinthiens, chapitre 12. Oui, c'est bien ça. 1 Corinthiens, chapitre 12. Ce qui tend donc à vous séparer des autres et surtout de Dieu, voilà donc l'ennemi véritable par excellence. Pour terminer, disons encore une fois, permettez à l'Esprit du Christ de vous inspirer toujours et encore toujours, car Jésus-Christ est la sagesse, il est l'amour et il est l'unité. Que cet Esprit vous tienne bien en main, qu'il contrôle tout en vous, jusqu'à s'imposer à la chair elle-même comme Seigneur et comme Roi. Ainsi se ranimera et brillera puissamment votre flamme. En vérité, les ossements desséchés eux-mêmes se rassembleront alors et revivront. Notez Ézéchiel, chapitre 32, non, pardon, Ézéchiel chapitre 37, 37, versets 1 à 10. Chers amis, vous allez ainsi mourir au péché et à tout ce qui brise l'unité. Et vous vivrez par le Christ et pour lui. pour l'éternité. Romains chapitre 6, verset 11. Chers amis, nous allons donc prier. Je dirai tout simplement, avant de prier avec vous, quelque chose d'enfantin. Ça peut choquer certains d'entre vous, vous qui savez maintenant que j'ai un âge certain. Quelle horreur! Oui, que l'amour de notre Seigneur était grand pour permettre que je devienne, que je puisse venir à un tel âge, pour enfin vous délivrer les vérités que je n'avais pas le courage de vous transmettre. J'étais un hypocrite religieux. Oui. Et je dis, comme un enfant, merci papa d'avoir eu pitié de moi. Merci pour ta compassion inimaginable. Oh, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, utilise aussi cette grâce et cette compassion, cet amour pour d'autres qui sont beaucoup moins épouvantables que j'étais. Mais quand même, malgré tout, ils peuvent être perdus s'ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ta sainte parole qui l'affirme. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, que ta bénédiction, celle dans nos âmes, les paroles et ton évangile que nous venons de méditer, qu'elles demeurent en nous pour notre consolation, notre joie, pour notre sanctification et notre salut éternel. Accorde-nous les lumières de ton Saint-Esprit afin de dissiper les ténèbres de notre intelligence et que nous sentions que le fond de nos cœurs, ce témoignage irrécusable de réconciliation avec toi, de paix et de bonheur, qui seul peut rendre notre foi sincère et absolument inébranlable. Nous te supplions de nous aider de ton puissant secours, de nous diriger en toute vérité, de nous inspirer, oui, des mouvements de conscience salutaires et durables, des pensées et des désirs conformes à notre céleste vocation. Pendant cette journée, sois-nous en aide dans les difficultés de la vie et ne permets pas que nous fassions un mauvais usage des moments que tu nous accordes, mais que bien au contraire, nous remplissions avec conviction tous nos devoirs, sachant que nous sommes constamment sous tes regards paternels. Ô Seigneur, sauveur de nos âmes, aie pitié de nous en nous bénissant tous. Tous ceux qui écoutent maintenant, bénis-les, oui, accorde les mêmes grâces à tous ceux qui souffrent. Et que ton saint nom soit glorifié à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis, merci pour tout l'intérêt que vous portez à ces études pas toujours très simples à digérer. J'en conviens. Mais rassurez-vous. Je préfère vous dire certaines choses qui vous déplaisent parfois fortement mais que ce soit la vérité, telle qu'elle est écrite. Bien sûr, il y a tous ceux qui disent, mais tout ça n'existe pas. C'est inventé par l'homme. L'ennemi, on dit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et le menteur des menteurs, le roi des menteurs, est le plus roublard des roublards, le plus tordu des tordus, et donc, forcément, surtout de nos jours, de la super science des atomes développés, des molécules performantes, tout cela empêche la simplicité de l'écoute et de la compréhension de la parole de Dieu d'autrefois. C'est vrai. Je le comprends. Je n'accuse personne. Je suis triste, tout simplement, et je prie pour que le Seigneur vous montre, un jour ou l'autre, par son amour, par sa compassion. Pourquoi aurait-il eu Dieu, Yahvé l'Éternel, le Papa céleste, et son Fils Jésus-Christ? Pourquoi aurait-il eu uniquement pitié et de la miséricorde pour moi, un crétin, vous qui êtes beaucoup mieux? Eh bien, il vous aime, et s'il a fait tout ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Soyez-en certains. Oui, il vous aime. Et avant de nous quitter, je vous dis, je vous embrasse avec tout mon amour, avec... Je n'ai pas les mots. Avec toute ma sincérité, que le Seigneur vous bénisse. À demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série. C'est pas évident, car parfois, je ne peux même plus parler à cause de la voix. C'est un miracle. Vous l'avez compris. À 90 ans, de parler distinctement, ce n'est pas évident. Surtout après avoir été 3 fois aux soins intensifs pour des pneumonies où je devais mourir. Selon les professeurs, j'avais aucun espoir. Et je vous parle aujourd'hui. Je crois presque distinctement pour un Suisse Toto, un Schleu, un Stormbirn. Vous connaissez tous ces noms-là, n'est-ce pas? C'est pas dangereux. Eh bien oui, Dieu vous aime. Et je vous aime. Comment? À demain! Bye bye! Arrivederci! Vaya con Dios!